quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'histoire des remèdes et des médicaments. Ce jeudi, nous nous intéressons à une figure majeure de la médecine antique, Galien. L'influence de Galien de Pergame sur la médecine romaine est considérable. Il a non seulement traduit et poursuivi l'œuvre d'Hippocrate, mais il a aussi fait avancer les recherches dans le domaine de l'anatomie ou encore des traitements médicaux. Son œuvre immense a été traduite et interprétée du monde indien à l'Occident moderne en passant par le monde arabe. Qui était-il? Pourquoi lui a-t-on accordé une importance majeure? La mise en cohérence des savoirs médicaux qu'il a effectués est-elle la raison principale de son succès? C'est ce que nous verrons avec Victor Massé de Lépinay qui a préparé cette émission avec nos trois invités, Véronique Boudon-Milot, est directrice de recherche au CNRS et directrice de l'UMR Orient et Méditerranée à l'Université de Paris-Sorbonne. Isabelle Boehm est en duplex de Lyon. Elle est enseignante-chercheure à l'Université de Lyon 2, rattachée au laboratoire Histoire et Sources des mondes méditerranéens, des mondes anciens, je crois, à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Et enfin, Nicoletta Palmieri est en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Reims. Nous remercions ces studios de l'accueillir, comme d'ailleurs les studios de Lyon. Nicoletta Palmieri est professeure de langue et littérature latine à l'Université de Reims. Mais tout de suite, un nouvel épisode de notre Fabrique de l'Histoire scolaire, nous sommes jeudi, qui se propose de raconter comment on enseigne l'histoire en classe aujourd'hui, mais en l'occurrence, comment on l'enseignait il y a 60 ans aujourd'hui.
Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 1768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie.
Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Est-ce que vous me voyez?
La fabrique de l'histoire scolaire.
Vous m'écoutez, s'il vous plaît?
Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre.
Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui.
Alette Briat a commencé à enseigner l'histoire-géographie au milieu des années 50. Elle a exercé son métier au lycée pilote de Montgeron dans l'Essonne. Aujourd'hui à la retraite, elle participe entre autres à la Fondation de la Résistance en tant que membre de l'Association des professeurs d'histoire-géographie, la PHG.
J'aimais bien l'histoire, j'aimais bien la géographie, donc ça tombait bien. Sinon, moi, personnellement, j'aurais plutôt fait ma médecine. Mais mon père m'a dit, c'est pas pour les femmes, ça. T'auras pas de parcours intéressant. Bon, très bien, merci. Donc ça, c'est une anecdote. Donc en 56, je passais mon diplôme. L'année d'après, c'était alors donc mon poste, mon véritable poste. Les Parisiens, on allait toujours dans le Nord. J'ai eu Boulogne-sur-Mer. Et lycée de filles avec pensionnaires, avec des petites soquettes. Et il n'y avait pas d'école privée pour les filles. Il y avait une école pour les garçons, il y avait des jésuites, mais pas pour les filles. Donc on avait toute la bourgeoisie de Boulogne-sur-Mer. Des filles très très attentives, qui en plus, on était des jeunes profs, on est arrivés deux jeunes profs, on changeait un peu du reste. Donc vraiment, on avait la cote. J'ai un excellent souvenir, malgré la direction extraordinairement difficile. Et deux ans après, retour dans la région parisienne, enfin la grande ceinture, Montreux. Et mon mari, donc, qui revient d'Algérie quelques temps après, est aussi nommé à Montreux. Donc voilà, on se retrouve.
Et Alette Briat, justement, dans ce contexte quand même de la guerre d'Algérie, vous êtes enseignante d'histoire-géographie. Est-ce qu'il y avait aussi des questions par rapport à ce qui se passait?
Il faut dire que les filles ne posaient pas de questions de ce genre-là. Non, c'est entre profs. Hein. Nous, on était deux ou trois à avoir mis le comité Audin. Hein. Alors ça, c'était une horreur d'avoir mis une affiche sur le comité Audin. Après Montreux, je suis allé au lycée de Montgeron. C'était un lycée tout neuf, même pas fini. Et c'était alors là, mixte. Alors là, c'est très très différent, parce que c'était un lycée pilote, fondé sur ce que la résistance avait imaginé pour l'enseignement. Et là, effectivement, tous les outils étaient possibles. On avait le droit, au lycée pilote, d'inventer, d'imaginer, aussi bien des voyages, aussi bien des, ce qu'on appelait l'étude du milieu. On sortait, on allait étudier une ferme, on allait étudier, etc. C'était dans notre emploi du temps. Et là, c'était un lycée, attendez, 30 hectares de parc, un lycée professionnel, général, collège. Ah, ça, c'était très important, collège et lycée. Ah oui. On pouvait prendre les classes qu'on voulait. Donc moi, j'avais seconde, première, terminale. Travailler en groupe, c'est pas une invention d'aujourd'hui, hein, franchement. J'avais un voyage pour chaque classe. Hein. Début de l'année, j'arrive à voir le proviseur. Il me dit, bon, d'accord, alors, c'est quoi? Ben, comme d'habitude, 5e Rome, hein, avec une organisation qu'on avait montée, avec des lycées, même le lycée canadien. Bon, c'était une grande organisation, c'était beau. 1000 élèves, hein, on arrivait hein, sur le circus Maximus, qui faisait des épreuves de gymnastique. Là. Enfin bref, c'était un peu du délire. Et puis, seconde, Florence, avec les profs de français, profs de musique, même le prof de maths, qui était un grand musicien, et qui venait aussi. Première, selon les profs de français, Venise ou Rome, la Rome baroque. Et terminale, alors là, ça a été le gros problème, Prague.
À quelle époque, alors?
Ben justement. Ben, c'était en 60, 63, 64. Mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas, derrière le rideau de fer? Je dis, c'est pas un zoo. Hein. C'est, ce sont des gens qui existent et c'est une leçon d'histoire. Qui passent, qui voient ce qu'est le passage du rideau de fer. Et pour les élèves, c'était effectivement une sacrée leçon d'histoire. Ce passage du rideau de fer avec ces chiens policiers. Et puis en plus, on avait quand même des charges, c'est-à-dire... on avait la charge de se confronter à des nouveaux programmes, c'est vrai, mais on les expérimentait. C'est-à-dire, on nous les donne comme maintenant. Ce sont les classes pilotes qui expérimentaient, on passait un bac différent en histoire. Moi, j'allais le faire passer à Grenoble, et Grenoble venait à Moncheron ou à Saint-Quentin, et on pouvait dire effectivement ce qui ne marchait pas, comment on pouvait améliorer. Ça venait de la base. C'est là le grand changement. Alors que maintenant, quand vous avez des changements de programme, la même année, qui change tous les programmes de la 6e à la 3e, c'est du délire pour les profs. Hein.
La leçon d'une grande voix, quelqu'un qui a commencé à enseigner, on l'a compris, au milieu des années 50, l'histoire, et qui juge aujourd'hui la façon dont on peut l'enseigner, en particulier dont sont composés les programmes. C'est le feuilleton La Fabrique de l'Histoire scolaire qui, comme tous les jeudis, donc vous permet de savoir comment on enseigne l'histoire en classe en France. Aujourd'hui, vous pouvez le télécharger séparément de l'émission de ce jour. Bonjour Victor Massel-Lépinay.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous Véronique Boudon-Milot.
Bonjour.
Bonjour à vous Isabelle Boehm.
Bonjour.
Et bonjour Nicoletta Palmieri, vous êtes en duplex avec nous depuis Reims, bonjour.
Bonjour.
Alors, il faut peut-être commencer notre émission qui conclut notre série consacrée aux médicaments et aux remèdes. Et nous avons voulu faire une place à ce qui était important, à savoir la médecine antique. Il faut peut-être commencer notre émission sur Galien en définissant qui était ce personnage, donc dont j'ai dit en ouverture de cette émission, je me suis d'ailleurs trompé qu'il avait traduit Hippocrate. Il ne l'a pas traduit puisqu'il écrivait en grec Galien dans cet empire romain qui était multilingue et qu'il n'avait fait que justement le commenter, en l'occurrence Hippocrate. Mais tout de même, Véronique Boudon-Milot, ce personnage naît, je crois, en 129. Il meurt, on ne sait pas très bien à quelle époque.
On ne sait pas.
Aux alentours de 200.
C'est ça, vraisemblablement après. Oui.
Donc il a une grande longévité.
Oui.
Il naît à Pergame et il va cheminer dans tout cet empire romain, dans tout ce bassin méditerranéen pour... y récupérer les savoirs médicaux de son époque, trier à partir d'eux ce qui lui l'intéresse le plus et d'une certaine façon devenir le grand médecin qu'il est resté, Véronique Boudon-Milo.
Tout à fait. Donc avec Galien, nous sommes au IIe siècle après Jésus-Christ, comme vous l'avez rappelé. Et souvent le nom de Galien est associé à celui d'Hippocrate, mais 7 siècles séparent les deux médecins. Et le coup de génie de Galien, ça va être de passer à la postérité comme le grand commentateur d'Hippocrate. Mmh. Alors un Galien, effectivement, qui parle grec dans un empire bilingue et qui lui aussi manifestement était bilingue et surtout un médecin qui va laisser une œuvre considérable, plus de 20 000 pages dans la seule édition complète.
On a pu lui reprocher d'ailleurs d'être trop disert d'une certaine façon, d'avoir trop écrit.
Et on n'a pas tout, beaucoup de ses écrits sont perdus. Et un médecin également, dont l'œuvre représente près de 20% de la totalité de la littérature grecque conservée. Je crois qu'il faut bien avoir ces chiffres à l'esprit pour comprendre. Et à l'intérieur de cet ensemble immense, 3000 pages uniquement de traités pharmacologiques. Mmh. Donc là, on voit bien le poids d'un Galien, héritier d'Hippocrate, commentateur d'Hippocrate, grand pharmacologue et aujourd'hui sans doute beaucoup plus connu des pharmaciens que des médecins.
Isabelle Boehm, quand on travaille sur Galien, il faut aussi travailler sur le milieu dans lequel il grandit. Alors il grandit à Pergame, fils d'un architecte célèbre dans cette ville de Pergame à ce moment-là, qui était une sorte de sommet de cet art romain de l'époque, au IIe siècle. Et puis, par ailleurs, il va récupérer son enseignement, non seulement à Pergame, au temple d'Asclépios et à tous ceux qui le fréquentent, mais en partant à Alexandrie. Et là, il va croiser des sources différentes, il va trouver des écoles, pourrait-on dire, très différentes, Isabelle Boehm.
Oui, alors à Alexandrie, il va découvrir des grands enseignants médecins qui, en particulier pour certains d'entre eux, ont de véritables théories philosophiques sur le fonctionnement des parties du corps et d'autre part, pour d'autres, pratiquent vraisemblablement de manière très maîtrisée, dissection, éventuellement vivisection, et l'expérimentation donc sur le corps essentiellement animal, pour, je dirais, confirmer certaines théories auxquelles Galien va en partie répondre en pratiquant lui aussi l'expérimentation.
Donc il y a des écoles qui s'appellent l'école empirique, l'école logique, l'école méthodique, l'école pneumatique, d'autres aussi qui n'ont pas de nom, une école anonyme, dites-vous, Isabelle Boehm. Enfin, toutes ces écoles, il faut se mouvoir quand on est une personne qui s'intéresse à la médecine et à la philosophie, parce qu'on a oublié de dire que c'était aussi un philosophe. Il faut se mouvoir au milieu de toutes ces tendances, pourrait-on dire, de l'analyse du corps, des maladies et de la pharmacopée.
Oui, tout à fait, d'autant qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à cette notion d'école dont on ne sait pas tout.
Donc vous parlez de secte, vous.
Mal. Oui, alors secte auquel on a parlé de secte avec des guillemets. Il faut être très prudent parce que finalement, de ces différents courants de théorie sur le fonctionnement du corps, entre autres, on n'a que des regards biaisés, dont la plupart d'ailleurs sont passés par le prisme du regard galénique qui est subjectif.
Victor Massel Lépiné.
Oui, tant qu'on est dans le terreau intellectuel de Galien, il faut peut-être reparler un tout petit peu d'Hippocrate. J'aimerais vous poser deux questions, Véronique Boudon-Milo. C'est qu'est-ce que Hippocrate d'abord a apporté véritablement dans la médecine? Pourquoi est-ce qu'il est considéré comme le père de la médecine? Et est-ce que dans les 7 siècles qui séparent Galien d'Hippocrate, il y a eu des progrès de fait, puisque Galien s'est imposé comme le grand commentateur d'Hippocrate, mais est-ce que la médecine en était au même point au moment où Galien a commencé à travailler?
Non, bien sûr que non. Alors, Hippocrate, c'est un nom sous lequel on a mis 60 traités, une soixantaine de traités, et les savants préfèrent parler de corpus hippocratique parce qu'il est très difficile de savoir ce qu'a écrit Hippocrate, même si on a pour certains, traiter des certitudes. Pour d'autres, on n'en a pas. Il y a une question hippocratique, un petit peu comme il peut y avoir une question homérique. Alors, Galien a eu cette idée de génie de commenter Hippocrate. D'autres l'avaient fait avant lui, mais il l'a fait de façon systématique avec un programme. Galien, il fait tout de façon systématique, il a un programme. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il est assez séduisant intellectuellement. Et Galien a commenté Hippocrate, et Hippocrate a besoin d'être commenté, parce que Hippocrate écrit pour des spécialistes et ne note que ce qui est utile aux spécialistes.
Il est concis.
Il est concis. Il a même écrit des aphorismes. Bon. Alors, il faut expliquer Hippocrate, et Galien va se charger d'être le grand médiateur entre Hippocrate, justement à l'époque romaine, et son époque, l'époque de Galien. Et évidemment, il y a eu des avancées en médecine. Isabelle Boehm vient de souligner à très juste titre le rôle de l'anatomie et des deux grands anatomistes alexandrins, Hérophile et Érasistrate. Il y a eu des découvertes. On a découvert, par exemple, la différence entre les veines et les artères. Bon, donc, Galien est riche de tout ça, de toutes ces découvertes, même si le modèle est animal. Et donc, il y a des erreurs anatomiques.
Et puis, il est riche aussi, Isabelle Boehm, de tous ses voyages, d'une certaine façon, parce que il va partir de Pergame, je l'ai dit, il va filer à Alexandrie, revenir à Pergame, repartir à Rome, repartir plus haut en Europe, sur le front, à un moment donné, aux côtés de Marc Aurèle, repartir dans d'autres sens. Et au bout du compte, il va cheminer dans toute la Méditerranée. Et chaque fois qu'il croise des savoirs médicaux ou pharmacologique, il les intègre d'une certaine façon à sa propre vision du monde.
Alors, non seulement il les croise, ses savoirs, mais il en fait aussi l'expérience personnelle. Et sa prolixité, en fait, est tout aussi, je dirais, passionnante que l'organisation de sa pensée. Par exemple, lorsqu'il s'arrête ici ou là, il observe la population, il observe le comportement humain et animal, il n'hésite pas aussi à se procurer, par exemple, telle ou telle matière qui sert à la fabrication de médicaments, comme par exemple une terre fameuse, la terre de Lesbos. Il va à Lesbos, il va en chercher et il se renseigne auprès de tous les types de connaisseurs de la pharmacopée antique, les bons, les mauvais, les petites gens, pour ensuite faire sa propre expérience et classer ensuite le bon du mauvais produit dans la fabrication de tel ou tel médicament.
Victor Massé de Lépine.
Ça qui est intéressant, c'est qu'avant de parler de ses découvertes et de ses méthodes, il faut parler un peu de sa personnalité à Galien. Elle transparaît dans ses écrits, sa personnalité. On va voir que c'est quelqu'un qui est possiblement polémiste. On l'a accusé un peu d'être pédant. Mais là, on voit aussi que c'est quelqu'un qui est méthodique, vous l'avez dit, Véronique Boudon-Milliot, peut-être d'abord parce qu'il a le temps. Et il a le temps peut-être aussi parce qu'il a de l'argent, c'est important à cette époque. Il se forme pendant très longtemps parce qu'il a une volonté de tout savoir, de tout connaître, mais aussi parce qu'il a le loisir de le faire.
Tout à fait. Alors la formation de Galien, pour son époque, est exceptionnelle. Il va étudier d'abord la philosophie, ensuite la médecine, et au bout de plus de 10 années de formation, il va pouvoir entrer, si je puis dire, sur le marché. Mais ce qui est tout à fait autre coup de génie de Galien, après avoir eu ce programme de commentaires d'Hippocrate, il va se placer au-dessus des écoles. Quand il arrive à Rome, il est polémique, Galien, parce que l'époque est polémique. Et parce que le monde médical est déchiré à l'époque romaine entre écoles médicales rivales. Et pour tenir le haut du pavé, il faut avoir le verbe haut. Alors il se jette dans l'arène, notre Galien, et il va affronter, avec un talent polémique tout à fait réel, ses différents adversaires, et il n'aurait jamais accepté le terme de méthodique qui a pris un tout autre sens dans notre langue, parce que les méthodiques, c'est une école et c'est à travers son représentant Thessalos, le pire ennemi.
Le pire ennemi de...
Le pire ennemi Thessalos, c'est le pire ennemi de Galien.
De Galien, quand il arrive à Rome, il va s'approcher aussi de la famille impériale. C'est important parce que cela aussi participe à sa célébrité. Il va s'approcher de Marc Aurèle. Il va s'approcher du jeune Commode. Il va quitter cette proximité qui est un peu dangereuse, on le sait, pour ceux qui étaient tout proches de Commode. Et puis se retirer en Campanie, donc dans la région de Naples un peu plus tard, à la fin du IIe siècle. Il a déjà une énorme aura lorsqu'il a 50 ou 60 ans, Galien. Nicoletta Palmieri, est-ce qu'il est connu de l'ensemble du monde romain alors que son œuvre n'est pas encore terminée avant sa mort ?
Oh, certainement. Il faut dire que, justement, à propos de la postérité des Galiens, pendant un siècle et demi après la mort des Galiens, nos renseignements sont très modestes. Mm-hmm. C'est-à-dire, nous savons que le galénisme s'est imposé assez vite, mais il y a une sorte de trou noir. Une sorte de trou noir, justement, Galien, après la mort des Galiens, et je dirais que une reprise consciente et systématique de l'œuvre de la pensée des Galiens pourrait commencer, par exemple, par Oribase de Pergame, qui...
C'est à quelle époque?
Nous sommes au IVe siècle. Oribase de Pergame est le médecin et l'ami de l'empereur Julien l'Apostat. Et justement, son œuvre nous montre un peu la direction du galénisme. C'est-à-dire, Oribase, par ses collections médicales, 70 livres quand même, hein, nous en avons 30, mais ses collections médicales, Oribase veut donner une sorte d'encyclopédie contenant toutes les connaissances médicales, et pour ce faire, il reprend des extraits, parfois recopiés mot à mot, d'ouvrages galéniques. Mmh. Donc on voit un peu de quelle manière Galien va être repris dans sa première postérité, c'est-à-dire, c'est un effort de conservation et de simplification.
D'accord. Oui.
Parce que, justement, l'œuvre, mes collègues viennent de le dire, l'œuvre des Galiens était ingérable par la quantité et par la complexité aussi.
Oui.
Toutes ces polémiques.
Donc il faut, avant de le transmettre d'une certaine façon, il faut le clarifier pour les contemporains du IVe siècle que vous nous présentez, en l'occurrence Nicoletta Palmieri.
L'étonnante fortune posthume des Galiens, en réalité, commence pour nous, d'après nos sources, qui sont parvenus, commence au VIe siècle, à l'école d'Alexandrie. Mmh. À l'école d'Alexandrie, après la fermeture de l'école néoplatonicienne d'Athènes, par les décrets de Justinien, nous sommes au milieu de la première moitié du VIe siècle. À Alexandrie, il y avait une sorte d'université où, justement, on enseignait évidemment la philosophie, mais les maîtres alexandrins avaient accentué leur curiosité pour les mathématiques et les sciences de la nature. Mmh. Je peux faire l'exemple d'un Stéphanos d'Athènes. C'est un personnage inévitablement inconnu du grand public, mais c'est le prototype, justement, de cette nouvelle figure d'intellectuel. Il est médecin, il est philosophe, il commente, il fait des lectures, donc des commentaires, des cours sur Hippocrate, sur Galien, mais aussi sur Aristote. Et donc, je dirais que la première réception des Galiens choisit surtout l'aspect philosophique et vise à une schématisation de son savoir. Galien n'était pas un auteur commode pour l'enseignement.
On l'a compris. On reviendra sur justement cette postérité avec vous, Nicoletta Palmieri. Isabelle Boehm, vous vouliez intervenir?
Non, pas du tout. J'opine du chef. Nicoletta ne me voit pas et je souris en
l'écoutant. Manière, c'est bien parce que vous êtes toutes à distance.
Avec approbation.
Les unes des autres. Victor Massé de l'Épinay.
Oui, je voudrais revenir sur le caractère polémiste de Galien, puisque vous nous avez dit, Véronique Boulomilo, qu'il se situait au-dessus des écoles. Et pourtant, quand on le lit, les extraits que j'ai lus dans vos nombreux articles, on voit que c'est quand même quelqu'un qui ferraille, qui renvoie les sophistes à leurs chères études, qui renvoie les méthodiques, vous l'avez dit, ou l'école méthodique dans les cordes également. Qu'est-ce que c'est le fondement de ces oppositions? Est-ce que c'est des oppositions qui sont dans la méthodologie médicale, dans le protocole,
oui, ou
est-ce que
d'abord sur la méthodologie. D'abord sur la méthodologie. Alors la force de Galien, c'est que avec son tour du monde, c'était Erasmus avant Erasmus, il avait été à l'école de toutes les grandes écoles et il pouvait parler de ce qu'il connaissait, ce qui n'était pas le cas de ses adversaires qui eux répétait l'enseignement
d'un maître
unique. Une sorte de
tradition, ouais, c'est ça,
voilà.
D'un maître unique.
Voilà. Alors lui, il a emprunté à toutes ces traditions. En homme de synthèse, il en a réalisé la synthèse. Et connaissant les faiblesses de ses adversaires, il pouvait d'autant plus les débusquer, les attaquer. Alors effectivement, l'affrontement, il est sur un plan méthodologique. C'est la place que l'on accorde à la raison et à l'expérience. Si on accorde la place principale à la raison, on va être un rationaliste, logique, etc. Et on ne s'intéresse pas aux données de l'expérience. Si on donne la primauté, pour schématiser, hein, évidemment, à l'expérience, on sera donc on ne s'appuiera plus sur la raison. Et Galien, lui, va marcher sur les deux jambes.
Va faire un aller-retour permanent.
Voilà, que sont la raison et l'expérience, le logos et peira en grec. Il le dit, la méthode a deux jambes, logos et peira.
Alors Isabelle Boehm, par exemple, vous avez écrit un article sur les théories dentaires de Galien et de...
Alors là, excusez-moi, non. Là, je crois que c'est plutôt Evelyne Samama qui a parlé des théories dentaires.
Ah bon. Non, c'est peut-être moi.
Voilà. Excusez-nous.
Pardon, Nicoletta.
La documentation était tellement vaste que nous vous confondons les unes avec les autres. Excusez-nous.
Alors, excusez-moi.
Non, mais allez-y, Nicoletta.
Cette question des os, en tout cas, est présentée. Les dents sont-elles des os? C'est ça la question. Il y en a qui disent que ce sont des os. Il y en a qui disent que c'est une sorte de matière cervicale qui descendrait et qui se solidifierait dans la bouche.
Cette question est
idéologique, dites-vous. Qu'est-ce que ça veut dire idéologique? C'est pas fondé sur de la dissection, c'est pas fondé sur de la raison. Sur quoi est-ce qu'on se fonde pour...
Non, j'ai étudié la postérité de cette théorie. Est-ce que les dents sont des os? Les problèmes... D'une certaine manière, est que si les dents sont des os, on comprend pas bien la douleur. Alors, du coup, la douleur est liée avec le cerveau, et du coup, on arrive à certaines polémiques que Galien avait déjà dans ses textes, une polémique concernant, par exemple, la priorité du cœur ou du cerveau. C'est un peu ça.
Oui, parce qu'on a parlé de la vie de Galien, on n'a pas vraiment parlé, Véronique Boudon-Milo, de ses théories. Alors évidemment, ces théories sont restées célèbres, mais elles étaient aussi développées par Hippocrate sur le flegme, la bile jaune, le sang, la bile noire, la théorie des humeurs, et surtout les relations entre chacun des organes, la priorité des organes, quels sont les premiers organes qui naissent dans le corps du fœtus, par exemple dans le fœtus, comment se développent ces organes, quelle est leur spécialisation? Le foie, la spécialisation, c'est le sang nutritif. Le cœur, c'est une autre spécialisation. Et le cerveau, une autre spécialisation. Et dans ce dialogue qu'établit Galien entre tous ces organes, dans cette différence qu'il fait entre les nerfs d'un côté, le sang qui passe par les vaisseaux et les artères de l'autre côté, etc., et les muscles de l'autre côté, il y a toute une pensée, pourrait-on dire, de ce qu'est le corps humain, en l'occurrence.
Tout à fait. Alors, la médecine antique est une médecine humorale. C'est incontournable, c'est incontestable. Et même Galien, qui a beaucoup disséqué, dissection animale, on l'a dit, mais il faut insister, même Galien, qui a beaucoup disséqué, n'est jamais sorti de ce cadre humoral. Et il a fallu qu'il tienne par les deux bouts une explication humorale.
Le chaud, le froid, l'humide et le sec.
Alors, après, oui, alors, à l'origine, c'est d'abord sang, phlegme, bile jaune, bile noire, avec des qualités qui sont chaud, froid, sec, humide. Et il a fallu tenir, donc, cette définition d'un corps en bonne santé qui serait parfaitement équilibré de tous ses points de vue, équilibre des humeurs, équilibre des qualités. Mmh. Et de l'autre côté, des observations. Voilà, on a le système là. Comment tenir le système par les deux bouts? La théorie et puis l'observation anatomique. Et alors, il a fallu construire un système, et Galien s'y est employé, dont la base était l'anatomie. Ensuite, il a fallu expliquer la physiologie, et il a eu cette idée un peu facile, des facultés. Il y a une faculté attractive, une faculté nutritive, une faculté de croissance. Et il a essayé d'expliquer comme cela. Et puis, il a fait tenir ses observations avec sa théorie pour les enfermer dans un système qu'il a livré un petit peu clé en main à la postérité. Et c'est ça qu'il y a de séduisant dans Galien, c'est que tout est expliqué.
Oui.
Tout est expliqué, il n'est jamais à court d'explications.
Victor Massé de l'Épinay.
On parle beaucoup de l'importance de la dissection chez Galien, et ce sont des dissections d'animaux qu'il faisait parfois en public. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais disséqué d'êtres humains?
Alors le problème,
ça se faisait, semble-t-il, à Alexandrie.
Ça s'est fait quelques temps avant. On a des témoignages qui permettent de reconstituer une pratique de l'anatomie humaine. La vivisection, non, ça, on n'a pas de texte, peut-être, on ne sait pas. Et puis il y a eu une très courte fenêtre dans l'histoire de la médecine. Ça s'est fait à Alexandrie avec Hérophile et Rasistrate au 3e siècle avant notre ère. Et puis ça s'est vite refermé pour des questions qui sont très complexes. Qui ne sont pas uniquement religieuses, qui ne sont pas uniquement scientifiques, parce que finalement, au bout, et qui ne sont pas uniquement matérielles. Scientifiques, parce qu'on s'est rendu compte que ce que l'on observait sur un corps mort n'était peut-être pas riche d'enseignements pour le vivant. Mmh. Donc, il y avait un problème, là, théorique. Et puis, il y avait le problème matériel que conserver avec les moyens de l'époque des corps en bon état sous un climat chaud, c'est quand même difficile. Donc, pour plein de raisons, autres que celles évidentes auxquelles on pensait tout de suite religieuses, éthiques, il y avait aussi ces problèmes-là. Donc les médecins ont arrêté de disséquer, ils ont continué, alors là, les vivisections animales
les
et
animaux.
Les démonstrations sur les animaux
en public,
Rome,
parfois
le plus possible, parce que là, Galien, c'était un homme de spectacle aussi.
Et il aimait les singes, Galien.
Pardon, les singes.
Les singes
oui,
en particulier.
Les singes, et il aimait tous les animaux qui crient fort, parce que plus l'animal crie fort, plus les animaux crient fort, et plus le spectacle sera retentissant pour l'audience.
Oui, donc les cochons, les singes, en l'occurrence, les chèvres, dans des spectacles médicaux, pourrait-on dire, une sorte de théâtre de l'anatomie, mais en vivisection permanente. Isabelle Boehm, on comprend déjà bien comment, effectivement, ce personnage a pu avoir cette importance, parce que, à la fois, comme vient de le dire Véronique Boudon-Milot, homme de spectacle, mais aussi celui qui a observé tout ce qui se faisait à l'époque dans le domaine médical et dans la pharmacopée. On est dans une série consacrée à la question des médicaments. Il invente aussi dans le domaine du médicament, pas simplement dans le domaine de l'anatomie et des fonctions des corps humains.
Il invente, il complète, il vérifie, je dirais plus largement, dans le domaine de la pharmacopée, dont il hérite un énorme savoir, dont certains pans d'ailleurs ne nous sont connus que par lui. Mmh. Et je dirais qu'il a surtout, je ne suis pas un spécialiste vraiment de la pharmacopée de Galien, mais ce que j'en connais me frappe par le fait qu'il a aussi et surtout le souci de redonner à chaque médicament sa véritable fonction, et aussi en cela d'ailleurs, de lutter contre les fabricants de poudre de perlimpinpin.
Eh oui, effectivement, les voilà. Charlatans dont on parlait hier à propos du 19e siècle.
Voilà, avec l'émission d'hier.
Voilà, donc, et là en l'occurrence, il invente, ou il popularise, alors c'est le ou la thériaque.
La thériaque, donc du grec terre, terros, la vipère, parce que, alors la thériaque, un électuaire, bon, une potion si vous voulez, riche de plus de 70 ingrédients et qui va réunir, mais ça c'est un trait commun à toute la pharmacopée antique, du végétal, du minéral et de l'animal. Donc on a les trois éléments à chaque fois. Et dans la thériaque, on a en plus donc la chair de vipère et l'opium, dont le médicament devait tirer son principe actif. Ça devait vous endormir un peu, ça devait endormir la douleur. Et comme il n'y avait pas grand-chose d'autre, on imagine que le succès du médicament vient de là. Très compliqué à fabriquer, la thériaque, avec des aromates, des ingrédients qui viennent d'Orient.
Et très compliqué à faire accepter aussi à ses contemporains, parce que manger quelque chose qui comporte
oui,
de
d'animal.
La chair de serpent, et surtout du serpent,
oui.
ça fait un peu peur, même si Galien est allé chercher auprès d'un peuple d'Italie qui s'appelle les Mars, des vipères, et puis surtout des secrets pour pouvoir intégrer cette question de la vipère dans ce médicament qui est une sorte de potion universelle.
Tout à fait. Alors, ça existait avant lui, là aussi. Alors, avec Galien, c'est vrai que le miroir est un peu déformé. Il a hérité, systématisé, collationné, compilé un nombre de recettes incroyables. La thériaque existait avant, elle a été inventée par Andromaque, médecin de Néron, donc 1er siècle. Mais... il va la populariser là aussi, parce que auprès de l'empereur, il va, pour les gens du palais, fabriquer la thériaque et il va expliquer dans un traité qui a eu beaucoup de succès comment on fabriquait la thériaque à toutes ces différentes étapes.
Alors, ce qui est intéressant, Nicoletta Palmieri, vous en êtes spécialiste, c'est de voir, vous nous avez déjà conté le début de l'aventure du succès de Galien au-delà de sa mort. Donc, et vous nous disiez, première étape, 4e siècle, 2e, 6e siècle. Et surtout, il a continué à être lu, commenté, lui aussi, tout au long de ce qu'on appelle traditionnellement le Moyen-Âge, même s'il était discuté en particulier par une fameuse école du Moyen-Âge, médicale du Moyen-Âge, l'école de Salerne, qui n'a pas toujours défendu ou apprécié Galien. Pas toujours. Elle en a discuté, non pas les fondements, mais peut-être la façon dont elle était racontée, cette médecine galénique.
D'abord, vous parliez du 4e siècle. C'est plutôt une tradition d'encyclopédiste, et ensuite à Alexandrie, on commence avec les maîtres philosophes, les commentateurs. Alors, pour arriver à Salerne, il faut savoir que, en réalité, déjà au VIe siècle, par exemple, le monde occidental n'était plus le monde de la Rome.
Bien sûr.
La religion était le christianisme, la séparation de l'Empire d'Occident et d'Orient, ensuite la formation des royaumes barbares. Une conséquence était la perte du bilinguisme. Donc, quand on parle des Galiens en Occident, il faut toujours faire attention un peu aux dates, aux siècles dont on parle, et à la possibilité que ces hommes avaient de lire Galien,
parce qu'il
dépendait des traductions. Donc l'école de Salerne, je pense plutôt au XIIe siècle, c'est-à-dire au moment où l'école de Salerne a son apogée, on va dire, philosophique. Il n'était pas critique à l'égard des Galiens, au contraire, ils attendaient surtout de pouvoir les lire, parce qu'au fur et à mesure que les traductions étaient accessibles, chaque traduction, ça faisait un impact.
Eh oui.
Ils se fondaient en particulier les Salernitains, sur le galénisme arabe.
Et oui, parce qu'il faut dire qu'il y a un chaînon manquant dans ce récit que nous faisons de la transmission du savoir de Galien jusqu'aux époques plus récentes. C'est effectivement les traductions en arabe et l'usage qu'en a fait la médecine arabe, en l'occurrence.
La médecine arabe. Et,
par le syriaque.
Oui. Par le syriaque ou par l'arabe, ouais. Unayn ibn Ishaq au 9e siècle traduisait en syriaque ou en arabe. Nous avons surtout ces traductions en arabe, mais d'une manière générale, les ouvrages médicaux des Arabes, qui parfois étaient des encyclopédies, par exemple Al-Majuzi, bon, il y a eu au XIe siècle, en Italie du Sud, Constantin l'Africain, qui a traduit en latin un corpus énorme, sans avoir le courage de traduire Galien, par ailleurs. Et les Salernitains ont commencé, justement, leur culture de base était non galénique, si j'ose dire, c'est-à-dire ils connaissaient un certain nombre des textes des Galiens, mais les traductions galéniques, les nouveaux Galiens, comme le disent les spécialistes, est plutôt au XIIIe siècle.
Et oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a fallu le traduire avant même de comprendre ce qu'il voulait dire, d'une certaine façon, Nicoletta
Palmier. Évidemment, l'histoire du galénisme occidental, donc en langue latine, dépend toujours des traductions. Il y a toute une évolution qui dépend de la possibilité que ces hommes avaient d'avoir accès à des textes importants.
Et bien sûr. Et Isabelle Boehm, sur ce point sur cet héritage, pourrait-on dire, et cette transmission, on a bien compris ce que nous disait Nicoletta Palmieri, cette séparation entre Empire d'Orient, Empire d'Occident, cette incapacité peut-être croissante de comprendre les textes originaux de Galien, et puis ces traductions, vous avez mentionné le syriaque. Je disais au tout début de cette émission que jusque dans le domaine indien, effectivement, Galien était resté une personnalité célèbre. C'est aussi cela, c'est cette transmission un peu universelle pour l'époque de l'œuvre de Galien, qui compte aussi pour pouvoir comprendre pourquoi cela a perduré bien au-delà de sa mort.
Oui, alors une transmission, vous dites, universelle, mais en même temps impossible de faire en sorte qu'elle soit complète.
Oui, bien sûr.
Elle est toujours partielle, et ce qui est toujours, enfin pour les traducteurs modernes, à partir de l'époque médiévale, ce qui devient difficile aussi, c'est de bien réussir à traduire un texte qui est celui d'un esprit qui lui-même est complet, un savoir, comme on l'a dit, vraiment multiple, philosophique, littéraire, expérimental, théorique, etc.
Et il faut dire aussi que pour l'espace occidental, par exemple, il a fallu des personnalités comme René Chartier, qui a traduit à l'époque moderne, pourrait-on dire.
Voilà, parce que vous avez raison, il y a une dimension importante là qu'il faut vraiment rappeler dans la transmission de Galien, ce sont les études médicales. Tous les médecins vont apprendre leur métier de médecin dans Galien. Donc Galien est inscrit au programme de toutes les facultés de médecine pendant tout le Moyen-Âge et la Renaissance. Et quel que soit le niveau des traductions, eh bien, c'est en tout cas dans ces traductions qu'ils vont étudier leur art. Et c'est un médecin, jusqu'au 19e, ce seront exclusivement des médecins qui vont s'intéresser à l'œuvre de Galien et qui vont l'éditer, la traduire quand ils peuvent le faire. Et Chartier, dont vous parliez, c'est la première grande édition complète Galien-Hippocrate.
C'est le médecin des filles de Henri IV et de Louis XIII, c'est ça ?
Voilà, et il va être ruiné à la suite de cette aventure, le pauvre René Chartier. Mais il aura fait une œuvre qui est finalement la seule édition complète sur laquelle on repose tous aujourd'hui encore, puisque le médecin allemand de Leipzig, Kuhn, n'a fait que reproduire l'édition Chartier. Donc on a une difficulté pour aborder Galien aujourd'hui, c'est que l'œuvre est immense, l'œuvre n'est traduite dans une langue moderne qu'à 5 ou 10%, et que l'état du texte grec qui nous est parvenu de façon lacunaire, dans des manuscrits récents, de mauvaise qualité. Et nous aussi, qui lisons aujourd'hui, qui nous efforçons de lire Galien, on doit affronter ces difficultés textuelles que nos prédécesseurs avaient déjà.
Oui, et surtout peut-être la difficulté de se replonger dans cet esprit dont on a dit combien il était encyclopédique.
Oui, mais ça c'est propre à toute étude sur l'Antiquité. Là, en plus, on a un problème matériel de transmission du texte.
Victor Vassilievitch.
Mais alors, avec toutes ces difficultés, est-ce qu'on peut essayer de définir ce que c'est le galénisme? Je veux dire, vous avez dit tout à l'heure qu'il s'agissait de faire marcher ensemble la raison et l'expérience. Ça, c'est bon, on peut le comprendre, mais techniquement, la médecine galénique, si aujourd'hui on allait se faire soigner par un médecin galénien. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est différent de la médecine qu'on connaît aujourd'hui dans l'élaboration d'un diagnostic, dans l'identification?
Alors, selon la gravité de votre cas, on va essayer d'abord de tout régler par le régime. Le régime entendu au sens large. Comment vous mangez? Comment vous buvez? Comment vous bougez? Comment vous dormez? Et on va essayer de régler ce régime. Si vous êtes trop humide pour que vous vous rendre un peu plus sec, si vous êtes trop froid pour vous rendre un peu plus chaud, il y aura des bains. Donc, tout ce qui concerne le régime, la vie quotidienne, et tout cela repose sur un interrogatoire du patient extrêmement précis, avec un échange et avec le patient extrêmement riche.
Donc ça, c'est très contemporain d'une
certaine
façon.
Très contemporain. Il faut remettre la relation.
La parole du patient.
Exactement.
Patient-médecin.
Patient-médecin au cœur de la médecine galénique. Et après, si c'est beaucoup plus grave, eh bien, il y aura des saignées, il y aura de la petite chirurgie. On va vous soigner par le fer, ce que l'on ne peut pas soigné par le médicament, on le soigne par le fer. Et dans les cas les plus graves ou désespérés, le médecin va suspendre son jugement, il n'a pas suspendre son traitement du moins, et il vous enverra au temple consulter Asclépios.
Nicoletta Palmieri, on a l'impression que cette œuvre de Galien, aussi gigantesque qu'elle soit, elle a toujours impressionné ceux qui la lisaient au point qu'elle n'était peut-être pas mise en discussion. Il y a pourtant eu, j'imagine, à l'époque médiévale, par exemple, des mises en discussion de Galien.
Ah, oui, il y a eu, d'ailleurs, il y a eu récemment un colloque, justement, axé sur les critiques que dont Galien a été la cible au cours des siècles, et je dois dire que ces critiques, finalement, commencent même assez tôt, au sein de l'école d'Alexandrie, donc au VIe siècle, je dirais que ces critiques, justement dans la tradition du galénisme, ont été ravivées, par exemple, par l'arrivée des traductions du canon d'Avicenne ou d'Averroès, mais d'une manière générale, c'est déjà ancien, c'est l'opposition entre Aristote et Galien. C'est-à-dire, Galien, évidemment, sur beaucoup de points des doctrines, suit et vraiment le disciple d'Aristote, mais sur d'autres points, en particulier sur la physiologie, il y avait des points de désaccord. Et pendant des siècles, justement, il y a donc les galénistes orthodoxes, on va dire, qui défendent et
les critiques.
Alors, on trouve, et là aussi, c'est quelque chose qu'on trouve assez tôt, mais c'est le Moyen-Âge qui l'exprime de manière plus claire, on trouve une solution en faisant la différence entre la voix des médecins et la voix des philosophes. Alors, lorsque les questions portent sur la médecine, c'est Galien qui a raison. Mais si la question est plutôt philosophique,
c'est Aristote.
C'est Aristote qui a raison. Donc, on trouve cette sorte de compromis, mais ce qui est assez, à mon avis, impressionnant, c'est justement la durée de
l'aura de Galien,
oui,
à l'orée de la médecine pastorienne.
Madame Oui, oui, tout à l'heure, Madame Boudon vous faisait vous donnait son traitement galénique avec le régime au sens large. Et là aussi, il y a une continuité vraiment impressionnante.
Ouais.
Les choses non naturelles sont justement l'ensemble de ces facteurs qu'on doit maîtriser. Donc le sommeil, la veille, l'alimentation, les boissons, les maladies de l'âme, le stress, on dirait.
Eh oui, oui, et même voilà. La peur, d'une certaine façon, Isabelle Boehm. Même si vous dites que Galien s'est intéressé plus à la question de la peur en philosophe qu'en médecin, dites-vous, par exemple.
Oui, alors ça c'est...
Très brièvement, on arrive au bout de l'émission, excusez-moi.
Oui, très brièvement, donc travailler sur les passions, les sentiments comme celui de peur, de stress, d'angoisse, ne sont pas précisément, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, n'intéressent pas Galien réellement sur le plan physiologique et physique que sur le plan philosophique. Mais là, c'est peut-être un de ces...
Ça sera une formidable transition, puisque dans un instant, on va pouvoir rentrer dans les chemins de la philosophie. Donc, bon. Merci Isabelle Boehm et merci à Chantal Nouvelot qui vous a accueilli à Lyon. Et merci aussi à vous, Nicoletta Palmieri, depuis les studios de Radio France à Reims. Merci Véronique Boudon-Milot. Nous mettrons évidemment sur le site internet de France Culture tout ce qu'il faut pour pouvoir poursuivre la discussion autour de Galien, discussion que nous avons entamée avec vous. Et sur le site internet de France Culture, vous trouverez également, il faut le dire, le programme de notre forum L'année vue par l'histoire. Ça sera samedi prochain, pas ce samedi mais le suivant, le 25, notez-le dans vos agendas. Nous serons, comme pour tous les forums de France Culture, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne qui nous y accueille, avec l'université de Paris-Sorbonne dont vous êtes membre justement, Véronique Boudon-Milot. Et nous traiterons donc avec le journal La Croix, le magazine L'Histoire, la chaîne Toute l'Histoire, de la question de l'actualité de l'histoire. Nous parlerons d'une société sans travail, nos votes ont-ils encore du pouvoir, une table ronde par Victor Massé de l'Épinay, ou encore pourquoi faut-il ou reparle-t-on aujourd'hui de la guerre froide. Nous aurons également une table ronde animée par Valérie Hanin de l'Histoire sur la confiance faite aux élites, et nous terminerons cette journée à 17h45 samedi prochain 25 donc avec une leçon de clôture avec le grand historien de la France, entre autres professeur à Oxford, Sudhir Hazare-Singh, que j'aurai le plaisir et l'honneur d'interroger pour finir cette journée. Donc inscrivez-vous sur le site de France Culture. L'entrée est gratuite, bien évidemment, pour cette journée, l'année vue par l'histoire, le forum de France Culture en histoire. C'est donc samedi 25, dans moins de 10 jours. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille, par Francesca Fossati. Nous avions avec nous Yanis Djoudad à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter l'émission, allez donc sur ce site internet sur lequel vous pouvez également vous inscrire pour l'année vue par l'histoire. Et puis vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. Notre adresse Twitter, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.